Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'angle énergétique de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Angélique Pahl, chercheuse énergie et matières premières à l'IRSEM. Donc bonjour Angélique, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors j'ai rappelé en effet que vous êtes déjà venu plusieurs fois dans le podcast pour nous parler d'énergie et de géostratégie à l'échelle mondiale, notamment une émission qui s'appelait « Énergie et puissance » qui se réécoute encore très bien, même s'il y a évidemment beaucoup à dire et à réactualiser à la lumière de la guerre en Ukraine. Je vais donc juste en dire un mot pour dire que c'est évidemment un peu un soubassement, une infrastructure au sens propre du conflit qui détermine beaucoup des marges de manœuvre, notamment européennes, puisqu'on voit depuis plus d'un mois maintenant que les exportations russes d'hydrocarbures sont une des limites des sanctions européennes, puisqu'on peut rappeler, signaler, pointer que les pays de l'Union européenne continuent à payer pas loin d'1 milliard d'euros par jour à la Russie en échange de ces matières premières. Je crois que le total n'est pas loin de 35 milliards d'euros à l'heure où on enregistre. Et en même temps, c'est aussi un des leviers de pression de la Russie sur les pays européens pour limiter les sanctions, avec la menace de peut-être couper les livraisons russes d'hydrocarbures, ce qui évidemment n'est pas très réjouissant, en pleine vague de gel, même si la Russie aurait évidemment beaucoup à y perdre également, et donc on est un peu dans une situation, alors je sais pas comment on pourrait la caractériser, mais peut-être de l'intimidation mutuelle ou du bluff, où les deux parties font planer le spectre de cette coupure, de cette interruption peut-être, de ces transactions, sans que personne ne passe à l'acte pour autant. Donc, on voit que, en même temps, on est dans une situation radicalement différente d'il y a quelques mois, qui oblige à penser avec beaucoup d'urgence les choix énergétiques qu'on fait et les marges de manœuvre stratégiques qui permettent. Et en même temps, c'est aussi une situation qui a beaucoup d'inertie, puisque dans le fond, pour l'instant, les grands flux et les grandes caractéristiques de la situation restent relativement stables. On va évidemment revenir sur tout ça, sur ce que la situation implique et sur ce qu'il est possible de faire, mais j'aurais peut-être aimé commencer par dresser comme d'habitude un petit tableau de la situation. Donc concrètement, Angélique Pahl, dites-nous, à quel point est-ce que, on va commencer par l'Union européenne, mais à quel point est-ce que les pays de l'Union européenne sont dépendants des hydrocarbures russes, et qui l'est le plus et qui l'est le moins?
Alors, on est sur une dépendance, je dirais une interdépendance, pour reprendre ce qui a été évoqué tout à l'heure, puisque la Russie, elle aussi, est assez dépendante finalement de la manne financière qui est générée par ces exportations. Pour donner des ordres de grandeur, en 2020, l'Union européenne, elle importe à peu près 330 millions de tonnes équivalent de pétrole et sur 385 de sa consommation. Et la Russie pèse là-dedans un gros tiers des importations européennes. C'est l'Allemagne qui en importe le plus, devant les Pays-Bas, mais qui sont un peu un faux importateur, puisqu'ils redistribuent largement derrière ce qu'ils importent, l'Italie, et puis la France est un peu plus loin derrière dans le palmarès des importateurs européens.
Alors, on sait que c'est un peu l'ambiguïté du terme hydrocarbure, c'est pétrole et gaz. Oui. Qu'est-ce que l'un pèse par rapport à l'autre, concrètement ?
Disons qu'en termes de dépendance, la dépendance au gaz est plus importante que la dépendance au pétrole pour une raison de structuration des marchés, qui est que le marché pétrolier il est mondialisé, notamment en raison des infrastructures d'importation, c'est-à-dire qu'on importe plus par bateau que par oléoduc, pardon. Alors que le marché gazier a un héritage plus régionalisé, on importe à travers des infrastructures, donc des gazoducs, et sa mondialisation est plus récente, avec la généralisation du gaz naturel liquéfié.
Donc en fait, le fait qu'on importe le pétrole par baril, ça fait qu'il peut venir d'à peu près n'importe
Exactement.
Où par container, enfin par temps, enfin par bateau, quoi. Alors que le fait que le gaz passe par des tuyaux, ben évidemment, ça ne peut passer que par les circuits où il y a des tuyaux déjà.
Exactement.
D'accord.
Donc il y a une dépendance à l'infrastructure qui est plus importante au niveau du gaz qu'au niveau du pétrole, ce qui veut dire que même si l'Union européenne importe du pétrole de Russie, il est plus facile de sortir d'une dépendance pétrolière que d'une dépendance gazière.
Et alors, il sert à quoi ce gaz russe dans l'Union européenne ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... C'est bête, mais bon, l'interaction quotidienne qu'on a avec le gaz, c'est le gaz domestique pour
oui.
cuisiner, pour chauffer, etc. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est du gaz qui sert dans des centrales à gaz ? Enfin, concrètement, il arrive où ? Enfin, qu'est-ce qui devient ce gaz russe ?
Il sert à deux choses principalement. Il va servir à de la production d'électricité. Il est notamment assez important dans la stratégie de transition énergétique comme énergie de backup pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire, lorsque eh bien, vous n'avez pas de vent ou pas de soleil, il vous faut des centrales de secours qui puissent être démarrées rapidement. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec l'énergie nucléaire, ça prend du temps de démarrer une centrale nucléaire. Donc, pour l'instant, l'énergie la moins chère et la moins polluante qui est utilisée pour ces centrales de secours, eh bien, c'est plutôt le gaz. Donc il a une importance dans la stratégie de transition énergétique, ce qui est d'ailleurs largement mis en avant par les Russes, hein, qui considèrent que le gaz est une des énergies de la transition, c'est présent dans leur discours. Et il est utilisé aussi, bien sûr, comme énergie de chauffage. Alors, pas tellement en France, par exemple, parce que la France a, du fait de son parc nucléaire, beaucoup électrifié sa consommation de chauffage, mais dans d'autres États, et notamment dans la partie Est de l'Union européenne, c'est largement utilisé comme une énergie de chauffage domestique.
Et alors, oui, vous l'avez dit, le nucléaire donc, on réduit forcément un peu la dépendance de la France, en tout cas pour la production d'électricité. Et peut-être, est-ce que c'est si vrai que ça ? Parce que, d'abord, parce qu'il y a des coopérations aussi dans le domaine nucléaire entre la France et la Russie. Je crois qu'il y a tout un tas de composants de nos centrales qui sont produites par Rosatom, qui est le géant russe du secteur. Donc, disons dans quelle mesure, si on sort une seconde de la question des hydrocarbures, parce qu'on va y revenir, mais est-ce que le nucléaire, c'est une énergie qui permet d'être vraiment souverain, ou est-ce que ça tape aussi quelques limites de ce point de vue-là ?
Si on est très, réaliste, en fait, aucune énergie ne permet d'être réellement souverain. C'est-à-dire que ce soit de l'importation d'hydrocarbures qui vont venir de zones de production qui ne sont pas localisées en France ou pas localisées en Europe, que ce soit la question nucléaire où on va importer à la fois du combustible, et notamment, il y a un certain nombre de centrales qui sont de technologie russe encore dans l'Union européenne et qui vont importer du combustible qui est produit en Russie. Que ce soit les énergies renouvelables où eh bien, il y a des matières premières qui vont demander de l'importation de certaines ressources comme le lithium, le cobalt, les terres rares, du sable, qui vont être importées d'ailleurs dans le monde. En fait, aucune énergie ne permet une souveraineté totale sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc c'est des équilibres, c'est un équilibre du mix qui doit être trouvé pour, disons, garantir une forme de souveraineté. Mais l'indépendance totale, en fait, elle est illusoire dans le domaine énergétique.
Bon, mais quand même, la menace principale, en tout cas, si vraiment ça va au clash, on en reparlera, mais dans quelle mesure c'est possible, c'est sur directement la fourniture d'hydrocarbures. C'est en tout cas là que le problème se pose en premier pour un certain nombre de pays européens.
Oui.
Alors, si on peut revenir peut-être une seconde en arrière, donc on est dans une situation nouvelle, la guerre en Ukraine, bon, une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, évidemment, c'est radicalement nouveau. En même temps, ça n'est pas non plus totalement, la guerre en Ukraine dure depuis 2014, même avant, il y avait déjà de nombreuses tensions entre la Russie et l'Union européenne. Donc, si on se replace dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça a fait au paysage énergétique européen, tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que les pays européens avaient déjà pris en quelque sorte la mesure du risque stratégique que c'était, cette dépendance au gaz russe, donc à hauteur de quoi ? Peut-être un tiers des approvisionnements en gaz de l'Union européenne. Est-ce que les pays européens avaient essayé de s'en protéger, ou est-ce que tout le monde s'est un peu caché les yeux en disant que ça passerait ?
Historiquement, la relation gazière entre l'Union européenne et ses prédécesseurs, et la Russie, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire que même au plus fort de la guerre froide, l'une des rares choses qui a toujours traversé le rideau de fer, c'est le gaz rouge. Donc, historiquement, il y a il y a peu de pression politique et militaire réelle qui soit suivie des faits, disons, sur l'approvisionnement gazier en provenance de la Russie. Depuis les années 2000, on assiste à effectivement une montée en tension entre l'Ukraine et la Russie sur cette question gazière. Il y a eu un certain nombre de différends gaziers dans les années 2000 entre la Russie et l'Ukraine sur des questions plutôt commerciales, où l'Ukraine n'a pas toujours été forcément commercialement, disons, dans le bon camp.
Avec Pourquoi Parce qu'ils voulaient avoir des prix très bas.
Il y a des questions de prix, il y a eu des questions de prix du fonctionnement, de la tarification du transit, il y a eu des questions aussi de corruption.
Parce qu'on peut peut-être signaler que, on en reparlera avec la question des gazoducs, mais l'un des problèmes de la Russie, c'est que quasiment tout le gaz qu'elle envoyait vers l'Union européenne passait par l'Ukraine, Exactement. Ce qui était évidemment un moyen de pression, quoi.
Donc, en gros, dans les années 2000, quasiment l'intégralité du gaz russe exporté vers l'Union européenne transite par l'Ukraine, ce qui donne à l'Ukraine un pouvoir de négociation sur le transit. Transit très fort. Ce qui est à l'origine d'une stratégie de contournement de la Russie qui a lieu à partir en gros du milieu des années 2000. Et si on regarde la carte des gazoducs qui ont été construits récemment par la Russie et qu'on fait la somme des capacités de transport de ces gazoducs, on se rend compte qu'en fait la Russie elle a essayé simplement de contourner l'Ukraine à travers le gazoduc Yamal qui traverse la Biélorussie et la Pologne, puis les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream, le gazoduc Nord Stream 1, qui traverse la Baltique au nord, et plus récemment le gazoduc Nord Stream 2, qui est au cœur de tout un certain nombre de tensions géopolitiques aujourd'hui, puisqu'il fait partie des pressions qui sont mises, qui sont des sanctions qui ont été mises en avant par l'Union européenne.
Mais donc, si je comprends bien, en fait, les pays européens ont presque pris le camp de la Russie dans cette affaire-là, c'est-à-dire ils ont accepté, enfin, ou probablement participé aussi, à contourner l'Ukraine pour que ce soit plus une menace sur leurs approvisionnements gaziers venant de la Russie.
On peut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une acceptation par l'Union européenne dans son ensemble, à nuancer parce qu'il y a un certain nombre d'États qui sont contre ce contournement par l'Ukraine et cette diversification des routes d'approvisionnement, mais pas des fournisseurs. Mais l'Union européenne a accepté finalement de faire sortir l'Ukraine de l'équation énergétique, de l'équation politique qu'il y avait avec la Russie, en se disant que, si par exemple, c'était la position allemande, l'Allemagne servait de centrale d'achat pour le reste de l'Union européenne, sans pays de transit en passant par la Baltique, ça permettrait une normalisation des relations avec la Russie, d'éviter d'engluer l'Union européenne dans les tensions russo-ukrainiennes et d'avoir une relation commerciale plus saine. En tout cas, ça, c'était le discours allemand jusqu'aux événements récents et au déclenchement du conflit il y a quelques mois.
Mais alors, c'est fascinant, parce que c'est comme s'ils avaient pris... c'est comme s'ils n'avaient pas considéré le problème que c'était d'être extrêmement dépendant d'une seule source qui, par ailleurs, est un régime autoritaire qui intervient dans les pays frontaliers et pas toujours de manière qu'on approuve depuis 20 ans maintenant, pratiquement. Enfin, c'est comme si devant l'importance de l'enjeu énergétique, on avait voulu se forcer à oublier le fait que on achetait quasiment tout, pas tout, mais qu'on achetait une grande partie, à un partenaire pas très fiable, quoi.
C'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois un partenaire extrêmement fiable sur le plan commercial, ce qui était avancé par l'Allemagne, et en même temps, c'est un partenaire qui est...
Extrêmement fiable parce qu'ils n'avaient jamais menacé de quoi que ce soit.
Exactement, parce que la Russie a joué sur les prix, a joué sur les prix de transit, bien sûr, mais n'a jamais menacé directement un pays européen de coupure en utilisant de façon extrêmement directe cette arme énergétique sur un plan géopolitique. Donc, du point de vue allemand, c'est un partenaire fiable commercialement.
Alors, donc, c'est ce qui préside, j'imagine, à ce grand projet, qui était le projet Nord Stream 2. Alors, peut-être rappelez-nous, vous nous avez rappelé un peu le tracé, en quelque sorte, mais quelle était l'idée et quelles étaient aussi les dimensions de ce projet, parce qu'on mesure en ce moment que c'est un peu en train d'être enterré, que c'est une sorte de catastrophe. Donc, qu'est-ce que c'était et pourquoi est-ce qu'on y comptait tant, notamment en Allemagne ?
C'est un projet qui fait 33 millions de mètres cubes, qui est dimensionné à peu près comme le premier gazoduc Nord Stream 1, qui suit à peu près le même tracé, c'est-à-dire qu'il part de Russie, il traverse la mer Baltique sans aucun pays de transit et il arrive directement en Allemagne. Et ça permettait de compléter le dispositif de contournement de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'avec la construction de ce gazoduc, eh bien, la Russie était quasiment en mesure de se passer complètement du réseau ukrainien pour approvisionner l'Union européenne en gaz. Donc c'était le dernier parachèvement de la stratégie de contournement russe. Ça permettait à l'Allemagne de se positionner comme un hub d'achat, une centrale d'achat gazière pour l'ensemble de l'Union européenne, en tout cas pour les pays d'Europe du Nord et en partie d'Europe de l'Est, puisqu'il y a quand même une partie du gaz qui arrive par le Sud.
Mais ça devait les gêner un peu d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire je pense par exemple aux Pays-Baltes, dont j'imagine qu'ils doivent dépendre un peu du gaz russe aussi. C'est un gazoduc qui les contournait et après pour aller en Allemagne, qui après leur envoyait le gaz qui venait juste d'à côté. Quoi, ça devait être un peu.
Alors oui, eux ils ont pas de branchement sur ce gazoduc-là et donc ils avaient une position très mitigée sur la construction de ce gazoduc, sans être aussi vocaux que la Pologne. Qui a pris la tête en fait en tant que chef de file des pays européens qui s'inscrivaient contre le gazoduc, ces États baltes notamment, et puis la Finlande aussi, étaient assez peu ravis de la construction de cette infrastructure, qui donnait aussi l'occasion à la Russie de renforcer une présence militaire dans la Baltique pour protéger les infrastructures, et donc qui assaillait, disons, une présence russe très importante dans la mer Baltique.
Et c'est un truc russe ou c'est un truc germano-russe? Enfin, je veux dire, c'est un projet copiloté, ou est-ce que c'est les Russes qui investissent et à la fin il y a juste les Allemands qui sont clients, quoi?
Non, c'est un projet qui est copiloté et qui rassemble des entreprises, donc bien sûr russes, mais aussi françaises, autrichiennes, néerlandaises. Et britannique.
Et là, on en est où maintenant? Est-ce que je veux dire, parce qu'on sait que, bon, signe peut-être de l'importance qu'avait le projet, mais on sait que tout le monde a un peu hésité à le déclarer enterré tout de suite. Maintenant, il semble qu'on soit un peu monté quand même en intensité et en virulence. Mais est-ce qu'on sait si c'est définitivement fini, si c'est mis en pause, si ça continue un petit peu, même si on ne le dit pas trop? Est-ce qu'on sait où ça en est, quoi?
Impossible à dire. C'est-à-dire que c'est gelé pour l'instant. Mais l'infrastructure est construite, donc impossible de dire est-ce qu'elle va être mise en service dans les prochaines années, est-ce que le projet va être complètement abandonné, est-ce qu'il va servir à faire transiter autre chose. Par exemple, la question de l'hydrogène avait été évoquée à un moment. Ça, c'est vraiment très très difficile à dire.
Alors, maintenant, si on essaye d'envisager ce qu'on peut faire, déjà, est-ce que... C'est tout bête, mais si on garde le mix énergétique tel qu'il est maintenant, puisque manifestement ça se change pas comme ça quand même, est-ce qu'il y a des alternatives viables et à quel point au gaz russe, disons à l'heure actuelle?
Sur le plan gazier, oui. Il y en a, disons, quatre grandes, mais qui ont toutes des points forts et des points faibles. Il y a le gaz naturel liquéfié, qui est une alternative qui est notamment, par exemple, poussée par le partenaire américain.
Donc ça, le gaz naturel liquéfié, c'est... On garde le gaz, le truc n'a pas changé, simplement, on le compresse tellement que ça devient liquide, et donc on peut le déplacer en baril désormais. Donc ça devient un peu comme le pétrole en termes de facilité à remplacer...
C'est ça. Ça coûte plus cher que du gaz importé par gazoduc, ça vient de plus loin. C'est un marché mondialisé, donc il y a une compétition. Par exemple, en ce moment, le gaz naturel liquéfié coûte beaucoup plus cher que le gaz russe de proximité qui arrive par gazoduc, notamment parce que les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est, notamment, en importent beaucoup. Donc voilà, il y a une compétition mondiale, hein, disons, pour l'accès à cette ressource. Alors que sinon, on est plutôt sur un marché régionalisé avec le gaz classique.
Donc c'est une concurrence entre les acheteurs, donc ça a tendance à faire monter les prix vu
Exactement.
Que c'est un marché mondialisé. Et ça, bah alors c'est tout bête, mais ça a l'air bien, ça a l'air commode. Est-ce que, j'imagine que personne n'avait tellement anticipé la chose, mais est-ce qu'il y a des pays européens qui, par exemple, auraient fait des stocks, qui, pourraient voir venir, en quelque sorte, qui maintenant pourraient envisager avec une certaine sérénité une éventuelle coupure des choses, ou est-ce que personne n'a vu le coup?
Ça a été la stratégie polonaise, notamment, qui a annoncé qu'elle allait sortir complètement des importations de gaz russe, qu'elle ne souhaitait pas renouveler ses contrats avec Gazprom, et qui a misé sur des infrastructures de gaz naturel liquéfié qu'elle importe, notamment, par exemple, du Qatar ou des États-Unis, et qui, elle, s'est posée en chef de file des pays qui s'inscrivaient contre la dépendance au gaz russe et contre le projet Nord Stream 2 et qui proposaient une sorte de projet concurrent de celui de l'Allemagne en se positionnant comme une centrale d'achat de gaz naturel liquéfié.
C'est plus cher de combien ? Enfin, à peu près, quoi. Non, mais c'est difficile à dire, mais c'est quoi ? Ça coûte 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, 10 fois plus cher ? Est-ce que c'est à la marge ? Et c'est un choix. Je veux dire, est-ce que si tout le monde se lançait sur le gaz naturel liquéfié au lieu des gazoducs, est-ce que ça a oublié, il a totalement changé nos modes de consommation, ou est-ce que c'est un coût qui s'ajuste, qu'on le sent un peu, mais ça va encore?
C'est compliqué parce que ça dépend des États. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend par exemple le cas des pays baltes, eh bien, certains États ont réussi à faire baisser de 30% leur facture de gaz en important du gaz naturel liquéfié à travers un petit terminal qui a été construit il y a quelques années, parce que leur relation commerciale avec la Russie les met dans une position de négociation plutôt plus faible que par exemple celle de l'Allemagne, et donc la Russie leur facture le gaz beaucoup plus cher qu'à des États comme l'Allemagne.
Donc eux, ils ont dû investir déjà il y a longtemps dans les infrastructures pour le gaz liquéfié, alors que si tout le monde doit s'y mettre, ça coûte cher. Enfin, c'est des terminaux différents, quoi.
C'est des terminaux différents, puis ça dépend ce que vous avez négocié comme prix avec la Russie. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, c'est beaucoup plus cher, parce que sa relation commerciale avec la Russie est relativement équilibrée, donc elle est capable de négocier les prix du gaz, alors que si vous êtes l'Estonie, vous êtes beaucoup moins capable de négocier le prix du gaz avec la Russie, donc c'est peut-être plus intéressant pour vous d'acheter du gaz naturel liquéfié. Donc ça va vraiment dépendre des États européens qui achètent.
Donc ça, c'est la première alternative aux gazoducs qui viennent de Russie, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc vous nous avez dit qu'il y en avait 4, donc quoi d'autre ?
Quoi d'autre ? Il va y avoir les gisements qui ont été découverts en Méditerranée orientale, notamment au large des côtes égyptiennes, israéliennes et chypriotes. Inconvénient, il faut prendre en compte la Turquie dans l'équation, puisqu'elle revendique une partie de ses ressources au nom de ses revendications sur une partie de l'île de Chypre.
Mais elles sont exploitées, ces ressources ? Pas encore ?
Elles commencent à l'être, notamment par Israël, dans la partie qui est des champs de gaziers qui est située dans ces eaux territoriales. La question, c'est à qui ces ressources vont-elles être vendues ? Ça peut être à l'Égypte, par exemple, qui a une croissance de sa demande forte. Donc ça peut rester dans la région, mais ça peut aussi être exporté vers l'Union européenne.
Et là, dans tous les cas, il faudrait construire un gazoduc à ce moment-là ?
Oui, il faut construire un gazoduc et il faut résoudre la question de la relation avec la Turquie sur la question chypriote. Donc ça implique, la résolution d'un problème géopolitique dans la zone.
Donc c'est pas pour tout de suite.
Donc c'est pas pour tout de suite. Troisième option, qui a été explorée au moment des accords sur le nucléaire iranien, eh bien, c'est le gaz iranien. L'Iran partage avec le Qatar l'accès à l'un des plus grands champs, au plus grand champ gazier du monde. Et là, la France, par exemple, l'une des entreprises françaises s'était positionnée sur l'exploitation de ces champs gaziers, et avec la remise en place des sanctions sous la présidence Trump, eh bien, elle a vendu ses parts à la Chine. Donc il y a eu une option qui s'était ouverte sur le gaz iranien et qui a été refermée avec les sanctions sous la présidence Trump. Donc là aussi, il y a un gisement, il y a une possibilité d'accès, mais il faut résoudre une problématique géopolitique dans la zone. Et dernière option, c'est le gaz qui vient d'Afrique du Nord, notamment à travers l'Algérie. Et là aussi, ça implique une stabilité géopolitique dans la zone. Et puis l'Union européenne n'est pas la seule à s'intéresser au gaz dans cette région-là. La Chine, par exemple, s'y intéresse également. Donc il y a des compétiteurs pour la ressource.
Donc tout ça, c'est les gisements éventuels, enfin disons les pistes de moyen et de long terme. Et, très simplement, mais même à plus court terme, vous nous avez dit, il y a à peu près il y a 40-45% du gaz européen qui vient de Russie. Et donc ça reste 50-55% qui vient d'ailleurs, donc j'imagine du Qatar, enfin soit du Golfe, soit d'ailleurs. On ne peut pas leur demander de produire plus à ceux-là ?
C'est compliqué. Il y a un certain nombre de champs qui sont déjà en déclin, par exemple tous les champs de la mer du Nord.
Ça, c'est plutôt la Norvège ?
Oui. Il y a aussi une question de dimensionnement des infrastructures. C'est compliqué d'exploiter un champ plus rapidement que ce qui est fait actuellement. Il faut, ça demande des investissements dans des infrastructures qui sont des investissements à long terme. Donc ça ne peut pas se faire tout de suite.
D'accord. Et enfin, parce que je peux renvoyer au premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais ça a été une des grandes révolutions dans, disons, la carte énergétique mondiale depuis peut-être 15-20 ans. C'est que les États-Unis sont des producteurs de gaz, puisqu'ils ont commencé à exploiter le gaz de schiste, et on sait que ça les a fait passer d'importateurs à exportateurs d'hydrocarbures. Donc bon, ça, on pourrait penser qu'à la fois, ils ont des grandes ressources. En même temps, s'il y a bien un partenaire stable sur lequel on devrait pouvoir se reposer par rapport, si on cherche à se détacher un peu de la dépendance à la Russie, ce serait peut-être les États-Unis. Est-ce que ça, c'est une piste, ou est-ce que bah, ça présente quand même trop de contraintes ou peut-être trop de coûts ?
Alors, c'est bien sûr la piste qui est favorisée dans le cas du gaz naturel liquéfié. Simplement, les États-Unis, ils ont aussi une position commerciale. Et donc, ce gaz naturel liquéfié, ils le vendent aux plus offrants. Et donc, pour l'instant, les volumes de gaz naturel liquéfié qui partent des États-Unis, ils vont plutôt en Asie du Sud-Est, par exemple.
Donc là, on est en quelque sorte dans les scénarios à moyen à long terme, avec l'hypothèse que bon, ça se passe bien, relativement bien dans les temps qui viennent, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de coupure, mais simplement imaginons le scénario du pire, bon, si on se projette là-dedans maintenant, soit sous la pression internationale face aux crimes de guerre russes, soit du fait des Russes, on en reparlera peut-être dans une minute, supposons que ça soit coupé, peut-être presque du jour au lendemain. Qui est le plus dans la crise instantanément, peut-être en Europe et puis tout autour aussi?
L'Allemagne, et qui est donc le principal importateur de gaz en Union européenne, et puis un certain nombre de pays d'Europe de l'Est et des pays baltes qui sont particulièrement dépendants du gaz russe. Il y a des stratégies de solidarité qui sont en train d'être construites en Europe, notamment sur l'architecture du réseau gazier européen, qui historiquement est plutôt un réseau qui est orienté est-ouest, ce qui se comprend bien. Le flux gazier, il vient de Russie et il alimentait plutôt des pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est sur le passage. Et là, l'Union européenne, depuis une bonne dizaine d'années, a commencé à construire des infrastructures nord-sud et des infrastructures ouest-est. Donc l'idée, c'est que certains États qui, par exemple, auraient des capacités d'importation vers d'autres régions, par exemple la France qui va importer du gaz algérien, soient capables, eux aussi, d'envoyer des volumes de gaz ailleurs, ou alors que des pays qui ont des capacités de stockage pour des questions géologiques soient capables d'échanger avec leurs voisins en cas de rupture d'approvisionnement.
Parce que c'est tout bête, mais les tuyaux, ils marchent pas dans les deux sens spontanément.
Pas tous.
D'accord. Mais du coup, enfin, supposons que ça s'arrête aujourd'hui, enfin, on a de quoi passer l'hiver. Enfin, est-ce qu'il y a des stocks? Est-ce qu'il y a... Enfin, là, on est quand même à la fin de l'hiver. On peut supposer que les besoins en chauffage, par exemple, diminuent dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Est-ce que, si ça s'arrête aujourd'hui, l'Europe a peut-être le fond de caisse, en quelque sorte, pour survivre à ça? Ou est-ce que c'est vraiment une catastrophe directe?
Le vrai problème pour les populations, c'est l'hiver prochain. Après, il y a des questions industrielles qui se posent, notamment par exemple pour l'industrie allemande. Mais pour les particuliers, le vrai problème, la vraie problématique qu'on pose aujourd'hui, c'est la question de l'hiver prochain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le gouvernement français, par exemple, est en train de monter une task force gazière pour penser la question de l'approvisionnement en gaz l'hiver prochain. Si vous allez sur... je crois que c'est le ministère de la Transition énergétique, mais je ne suis pas complètement sûr de l'affiliation. Il y a une task force gazière qui est en train d'être montée par le gouvernement pour penser cet approvisionnement énergétique à horizon un an.
Donc ça veut dire que voilà, il y a quelques mois, en tout cas, pour essayer de démêler le problème. Là, personne ne mourra de froid. Enfin, y a pas le chauffage ne sera pas coupé en Europe à cause de ça. Mais ça pose quand même... Enfin, il ne faut pas non plus oublier le problème parce que ça va se représenter l'hiver prochain.
La vraie question, c'est l'hiver prochain. Parce qu'à horizon 2-3 ans, il y a éventuellement des capacités de construction d'infrastructures. Par contre, pour l'hiver prochain, c'est trop juste.
Mais alors, juste... Bon, même si ce n'est pas le danger principal immédiat, on a vu que ça a été quand même une menace qui a été brandie par la Russie. Alors là, je l'ai dit un peu en introduction, un peu à mots couverts. Ce n'est pas vraiment une menace qu'on sort directement, mais en tout cas, il y a des indications qu'on pourrait couper le robinet d'approvisionnement. Déjà, c'est tout bête, mais est-ce que techniquement, c'est possible? Est-ce qu'il y a quelque part une vanne, un bouton, peut-être même un centre de contrôle qui peut arrêter le transit du gaz dans ces tuyaux, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, c'est un processus long, compliqué, parce que c'est des volumes énormes qui transitent?
Alors, c'est possible de couper l'approvisionnement. La Russie l'a, entre guillemets, déjà fait lors de ces conflits avec l'Ukraine. Alors, pas en coupant l'approvisionnement entièrement, mais en réduisant les volumes de gaz à destination de l'Ukraine et de l'Union européenne lors de ces conflits gaziers. Donc, c'est possible, mais par contre, c'est extrêmement coûteux techniquement parce que une fois que vous avez, appuyé sur le bouton off, c'est long techniquement de redémarrer. Donc c'est long à la fois en termes de transit gazier, puisque pour que les tuyaux fonctionnent, il faut qu'il y ait une certaine pression qui soit maintenue dans le système gazier. À partir du moment où vous passez en dessous de cette pression, le système s'arrête. Et ça demande aussi de gérer la production gazière au niveau des champs gaziers. Et là, c'est pareil, à partir du moment où vous avez éteint les systèmes d'exploitation, c'est long de les redémarrer. Par exemple, la Russie a dû baisser sa production au moment de la crise du Covid, puisque la demande était plus faible, et ça lui a pris beaucoup de temps de redémarrer ses volumes de production pour faire face à la demande qui est remontée en flèche lorsque les restrictions ont été les différentes restrictions économiques ont été levées.
Mais c'est tout bête, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que en attendant ou en prévision d'une éventuelle coupure, tout le monde fasse des stocks, par exemple que là les pays européens soient en train de récupérer encore tout le gaz russe qu'ils puissent et qu'ils essayent de le liquéfier ou de le stocker, ou je sais pas comment c'est possible, et inversement que la Russie, s'ils arrivent plus à le vendre, ils se mettent à le stocker sous forme de gaz liquéfié. Ou est-ce que, ben non, enfin, le gaz, ça doit circuler par les tuyaux, enfin, en tout cas tel qu'il est produit, et c'est pas vraiment une alternative viable.
Alors, il y a de toute façon des stocks de gaz qui sont des stocks contractuels, entre guillemets, en cas de problème technique, qui doivent permettre de pallier une défaillance de l'infrastructure, par exemple. Donc, il y a des stocks qui existent, ils ne sont pas au plus haut. Puisque l'Union européenne a un peu puisé dedans, notamment pour faire face à la relance de sa consommation après la crise du Covid. Donc les stocks sont pas au plus haut en ce moment. Il n'empêche que ça, en cas d'interruption, ça doit permettre de voir venir jusqu'au moins l'hiver prochain. Mais on n'a pas de stock pour faire face à une crise qui durerait 2 ans, 3 ans, par exemple.
Alors, si on continue d'explorer ce scénario un peu du maximaliste, parce que c'est l'autre versant de la chose, là on a bien vu pourquoi c'était problématique pour nous, puis j'imagine qu'il n'y a pas que pour nous, que pour aussi d'autres pays non européens ce serait problématique si jamais la Russie venait à couper en quelque sorte cet approvisionnement. Mais si on explore la chose du côté russe, à quel point est-ce que tout ça est soutenable, ce qui implique que vous nous expliquiez peut-être un peu comment fonctionne l'écosystème énergétique russe, parce que, je veux dire, certes, c'est de l'argent, et c'est même des sommes importantes qui rentrent en Russie, on a dit à peu près 1 milliard d'euros par jour, mais c'est pour Gazprom, qui est une entreprise privée, même si c'est avec capitaux d'État. Donc spontanément, on a un peu de mal à comprendre en quoi et comment c'est l'espèce de perfusion économique, de ballon d'air monétaire, de liquidité qu'on décrit parfois, quoi.
Pour la Russie, si on devait prendre une comparaison, c'est quasiment utilisé un peu comme un système de sécurité sociale. Au sens où Gazprom, qui est une entreprise d'État, ne fait quasiment aucune marge sur son marché intérieur. Elle est contrainte par l'État russe de fournir à l'ensemble de la population une énergie à bas coût, donc d'investir dans des infrastructures qui ne sont pas forcément rentables économiquement et de pratiquer des prix qui ne le sont pas non plus. Donc le seul moyen que Gazprom a d'investir dans ces infrastructures, notamment internes, d'explorer de nouveaux champs, d'investir dans de la R&D par exemple, ça va être de vendre à l'extérieur, puisque sa seule source de revenus réels va être ce qu'elle vend notamment à l'Union européenne. Donc si vous arrêtez de mettre Gazprom sous perfusion de capitaux européens, ça devient extrêmement compliqué pour l'entreprise de continuer à assurer cette mission de service public qui est de fournir une énergie peu chère et abordable pour l'ensemble de la population russe et d'entretenir le réseau gazier russe. Donc il y a pas forcément à très court terme, mais à moyen terme, il y a un vrai enjeu pour la population russe à ce que cette manne financière continue d'arriver chez Gazprom.
Bon, c'est pas des valises. Non, mais parce que souvent c'est comme ça. C'est on envoie tous les jours de l'argent à la Russie qui se sert de cet argent pour faire la guerre. C'est pas exactement aussi direct que ça. C'est simplement cet argent permet de soutenir, de maintenir une sorte de système à peu près stable qui bon, permet la guerre d'une certaine manière, mais c'est pas directement des transferts de fonds qui partent dans des chars d'assaut.
Non, non. Non, mais disons que ça conditionne aussi une stabilité sociale russe, parce que si demain les prix de l'énergie s'envolent, pour le coup, c'est la population russe en première ligne qui en paye les conséquences.
Mais alors, puisqu'on mesure que c'est important et c'est une sorte de soupape de sécurité pour le système russe, est-ce qu'ils ont été tentés de diversifier eux-mêmes alors leur pays d'exportation, c'est-à-dire puisque si c'est plus pour l'Europe, est-ce qu'ils peuvent redéployer ce gaz vers d'autres pays? L'Europe n'est pas le seul importateur de gaz au monde, donc est-ce qu'ils peuvent essayer de le vendre à d'autres pays qui en auraient besoin, quitte à casser un peu les prix en quelque sorte?
Oui, ils ont deux stratégies. La première, c'est de se mettre sur le marché du gaz naturel liquéfié. Donc il y a eu des investissements d'infrastructures très importants dans la péninsule de Yamal, notamment, avec des terminaux d'exportation. C'était aussi une façon de contrer en fait la volonté européenne de dire « bon bah voilà, on va passer du gaz russe au gaz naturel liquéfié ». Les Russes ont dit « bon bah très bien, on va faire du gaz naturel liquéfié nous aussi, et vous en vendre, parce qu'on sera plus proche, et donc moins cher que celui des Américains ». Et la deuxième voie de diversification, c'est notamment vers la Chine, où un certain nombre de gazoducs sont en cours de construction, il y a des contrats qui ont été signés. Et là, c'est un peu plus compliqué au sens où ce ne sont pas forcément les mêmes champs qui sont les mêmes champs gaziers qui sont qui sont à l'origine de ces exportations. Donc c'est un concurrent de l'Union européenne en termes d'investissement, c'est pas forcément un concurrent direct en termes de sources d'approvisionnement gazière.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément balancer le gaz qui était destiné à l'Europe, à la Chine, parce qu'il n'y a pas les tuyaux pour...
Voilà, il faut les construire. Donc ça a été mis sur la table par la Russie, qui a dit « bon bah très bien, nous on est capable de rebasculer notre architecture gazière aussi vers la Russie, vers la Chine, en provenance des champs gaziers qui sont normalement destinés à l'Union européenne, mais ça, pour le coup, ça va prendre du temps. »
Et du coup, si on revient une seconde sur cette transaction qui a lieu à l'heure actuelle, alors on a beaucoup dit que le volume le montant des exportations russes avait jamais été aussi haut, enfin en tout cas avait pas été aussi haut depuis longtemps. C'est tout bête, mais ces prix, les prix du gaz, est-ce qu'ils ont pâti, est-ce qu'ils ont varié en fonction de la guerre en Ukraine et des sanctions qui ont été prises notamment par les pays de l'Union européenne? Est-ce qu'ils sont restés à peu près stables? Et puis aussi, comment est-ce qu'ils sont négociés? Comment est-ce qu'on fixe ces prix-là?
Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a eu un changement ces dernières années. Historiquement, on est plutôt sur des contrats à long terme. C'est-à-dire que les pays de l'Union européenne signaient des contrats à long terme avec Gazprom qui étaient renouvelés tous les 10 ans, en gros. Ce qui garantissait une stabilité des prix. Dans l'optique de sortir de la dépendance russe, les pays de l'Union européenne ont changé ces dernières années de mode de contractualisation pour passer plutôt sur, sur des prix de marché prix spot, ce qui a occasionné un certain nombre de surprises, notamment lors de la sortie de la crise du Covid, où les prix de l'énergie se sont envolés suite au redémarrage des économies. Donc ces prix, aujourd'hui, ils sont plutôt fixés par la loi du marché, que la Russie, ne manque pas de faire valoir lorsqu'elle les fait monter.
Mais en même temps, ce marché, c'est pas un marché libre avec beaucoup de compétiteurs, puisque ce que vous nous dites, c'est que l'architecture, les gazoducs, ils passent par là où ils passent. C'est pas comme s'il pouvait y avoir une concurrence, d'un plan là, libre et non faussé, entre des pays producteurs et des pays importateurs. C'est assez bilatéral comme négociation.
Bah, c'est bilatéral, mais le marché du gaz se mondialise, hein, puisque le gaz naturel liquéfié est quand même venu changer beaucoup la donne. Donc, la Russie n'est pas le seul exportateur à destination de l'Union européenne. Il est arrivé, par exemple, que la négociation, l'arbitrage entre le gaz norvégien, par exemple, et le gaz russe, se fasse en faveur de la Russie parce que les prix norvégiens étaient un peu plus élevés. La Norvège a la réputation d'être assez dure en affaires sur les questions gazières. Donc c'est un équilibrage général entre la disponibilité de la ressource à l'échelle régionale, mais aussi internationale, puisque ce gaz naturel liquéfié est beaucoup venu changer la donne ces dernières années, et puis la capacité de négociation des États. Il y a eu des investigations qui ont été faites, notamment par exemple sur les pratiques de négociation de Gazprom auprès des États de l'Union européenne, et notamment à la Commission et au Parlement européen, avec des négociations extrêmement intenses et complexes géopolitiquement qui ont lieu avec les différents États sur ces contrats à long terme. Donc cette fixation des prix, elle est ambivalente, parce que évidemment c'est pas la concurrence libre et parfaite d'un marché idéal, et en même temps, comme on est sorti de ces contrats à long terme, lorsque, par exemple, la Chine relance sa production économique et fait monter les prix du gaz sur le marché du gaz naturel liquéfié, mécaniquement, les prix du gaz en Europe montent eux aussi.
Et alors, si on essaye de trouver des pistes, donc entre le redéploiement massif du mix énergétique ou à tout le moins des sources d'approvisionnement gazière européennes, et le court terme, on voit bien que ça ne va pas changer a priori dans l'immédiat. Si on prend un acteur qui est l'Union européenne, qui a depuis une dizaine d'années maintenant, depuis le traité de Lisbonne en 2009, une compétence énergétique propre, disons, quelles sont les pistes que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, peut prendre en charge, puisque on a bien vu que s'il s'agit d'une question souveraine des États souverains, il y a quand même des dissensions, puisque clairement l'Allemagne est moins motivée que les autres, pour des raisons qu'on comprend bien, à se détacher de la Russie rapidement sur les questions gazières. Donc qu'est-ce que l'Union européenne, en tant qu'acteur, a fait ou peut faire pour réduire cette vulnérabilité stratégique qui est majeure, on le voit aujourd'hui?
L'Union européenne, elle a conditionné depuis quelques années sa stratégie énergétique à sa stratégie climat. C'est-à-dire, l'objectif actuel de l'Union européenne, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça implique de toute façon une réduction de la dépendance aux hydrocarbures, et donc aux hydrocarbures russes. Donc elle soutient le déploiement d'énergies renouvelables en Europe de façon très et de plus en plus intensive, et elle fixe des normes pour atteindre ses objectifs de transition vers des énergies renouvelables. Donc c'est son principal mode d'action, parce que le problème de ce traité de Lisbonne, c'est l'ambivalence entre la capacité d'action européenne, la compétence européenne à construire une stratégie énergétique commune, et en même temps l'affirmation dans le même traité des États à conserver une souveraineté sur leur mix énergétique, ce qui a permis par exemple à l'Allemagne de sortir du nucléaire sans consulter ses voisins. Donc la position européenne, elle est un peu ambivalente, elle ne peut pas contraindre les États à adopter des mesures immédiates sur la question du gaz russe. Par contre, elle fixe des objectifs de long terme qui de facto font sortir, s'ils sont atteints, les États européens de cette dépendance directe au gaz russe. Par contre, ça ouvre d'autres dépendances, comme on le disait tout à l'heure, vers, par exemple, des terres rares chinoises, du lithium d'Amérique latine, ou d'autres régions de production, de ressources dont on a besoin pour construire ces énergies renouvelables.
Donc ça peut être l'acteur de la substitution à moyen terme, mais ce n'est pas un acteur de court terme, ni pour peser dans la relation avec la Russie, ni pour unifier les politiques des États. C'est la structure plus que disons l'ajustement en temps réel face à la situation stratégique. Enfin, j'ai signalé aussi que vous venez justement sur cette question de contribuer à un ouvrage collectif qui s'appelle « Dans l'urgence climatique » qui vient de paraître chez Folio il y a quelques semaines, qui visait justement à poser un peu cette question des acteurs, de à quel niveau est-ce qu'on gère ces questions énergétiques, ces questions de transition écologique, de transition énergétique, dans le contexte de la campagne électorale, évidemment, c'est le sujet des semaines dans lesquelles on est. Et vous avez donc rédigé dedans tout un chapitre sur la partie stratégique, disons, de l'autonomie énergétique et de la manière dont l'échelon des États est confronté à la question de la transition énergétique. Tout simplement, est-ce que vous pourriez dire un mot peut-être du projet, de l'idée qu'il y avait derrière l'ouvrage ?
Alors c'est un ouvrage qui est coordonné par le GEG, le groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure, qui est un think tank assez récent, fondé en 2017, qui avait pour objectif de créer une sorte de manuel avec l'ensemble des experts de la transition énergétique et des questions climatiques, donc ancrer la transition énergétique dans ce contexte plus large de la question climatique, notamment dans le cadre du débat présidentiel, puisqu'on sait que les années présidentielles sont souvent l'occasion de mettre sur la table de façon un peu unifiée des débats qui ont lieu de façon plus ponctuelle sur la scène médiatique française. Et c'était notamment aussi l'occasion de faire sortir cette question énergétique de l'éternel débat pour ou contre le nucléaire qui vient souvent saturer le débat public sur les questions énergétiques en France. Et de lui donner aussi, c'était l'un des objectifs de l'ouvrage, de le replacer dans la dimension européenne, puisqu'on vient d'en discuter. Cette question européenne, elle met en forme une partie des politiques publiques de l'énergie des États à long terme. Donc l'objectif de l'ouvrage, c'était d'avoir une sorte de synthèse de ces débats sur l'énergie dans le cadre du changement climatique qui soit accessible à la fois à des experts et en même temps un lecteur moins familier de ces questions, mais qui souhaiterait en avoir une vision globale.
Très bien. Merci beaucoup, Angélique Pall.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM, tout comme les notes et commentaires sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.